Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les 4 drôles de dames, c'est la fin des drôles de dames sur RMC ce lundi soir, bien sûr. Si on se retrouve la semaine prochaine, mais d'abord, les questions au 32-16, vous nous appelez nombreux. Je vais tout de suite accueillir Alessio. Vous l'avez compris, question.
Ah, c'est pour moi.
Pour Polo Breakner. Ouais. Bonsoir, Alessio.
Bonsoir à tous.
Salut, Alessio.
Bon, prénom italien, ce qui veut dire que c'est pas un surnom, ton vrai prénom d'origine italienne?
Oui.
D'accord, tu appelles d'où?
J'appelle de chez moi, je suis de Versailles.
Oui, c'est bien, c'est bon de savoir, mais supporter de la Juve, Alessio.
Je suis de Versailles.
Alors, ta question pour Johan.
Alors voilà, moi j'ai apprécié la semaine dernière que tu puisses parler de la série B et notamment de Como. Et du coup, j'oriente ma question sur un autre club de série B, Parme.
Ouais.
Et j'aimerais avoir ton avis sur Parme. Ça a l'air de bien marcher avec Fabio Pecchia.
Ouais.
Et je voulais savoir si c'est vraiment un renouveau. Pour ce que je considère quand même un mastodonte de la Serie A, s'ils vont s'inscrire sur la durée ou s'ils vont faire un aller-retour comme l'ont fait par exemple la Cremonese ou Venezia.
Alors, le projet avait très mal démarré avec l'investisseur américain, puisqu'ils descendent et qu'il y a beaucoup de mauvais choix. En fait, il a fait beaucoup de mauvais choix pour expérimenter de plein de sortes, hein, économiques, sportifs, stratégiques, etc. Et là, en Fabio Pecchia, il a trouvé quelqu'un quand même d'une très grande maturité dans la gestion des joueurs, dans la gestion des événements, dans l'affirmation d'une identité. Alors, c'est pas Pecchia, c'est l'ancien adjoint de Rafa Benitez à Madrid, à Newcastle, à Naples. Donc, c'est quelqu'un avec une certaine dimension et expérience. Et il ressemble un peu au Benitez qu'on avait à Naples, c'est-à-dire quelqu'un pas forcément ultra dogmatique, mais très enclin à s'adapter à la configuration des matchs et des adversaires. Ce qui fait que cette équipe de Parme, elle est assez caméléon et qu'elle réussit bien cette saison. Elle devrait monter. Elle a quand même beaucoup de points d'avance. Je crois qu'elle en a 8 de mémoire maintenant.
5 troisième. Points sur le deuxième et 8 sur le troisième.
C'est sur le troisième.
Venise, troisième.
Voilà, exactement. Le troisième joue les playoffs, donc c'est vraiment sur ce club-là qu'il faut regarder. Le recrutement a été un peu plus ciblé. Il y a quelques joueurs qui ont mis du temps aussi à émerger. Les Denisman, les Bonny, le jeune français, le Barnabé aussi, qui vient de Manchester City, hein, qui a été formé au Barça, récupéré à Manchester City. Et quand Enzo Maresca vient à Parme, lui qui était entraîneur des U23 à Manchester City, il le prend avec lui. Et Barnabé est en train de prendre une belle dimension. Donc Parme, c'est une équipe, c'est marrant parce qu'en France, on a l'impression que c'est une équipe qui compte beaucoup dans le palmarès italien, ou qui compte beaucoup en Italie, mais elle compte beaucoup, cette équipe, parce que c'est dans les années 90 qu'elle s'est construite.
Ça, ouais.
Elle s'est construite déjà un palmarès, je vais y arriver, avec deux coupes d'Europe, avec des coupes d'Italie, avec une coupe de l'UEFA. Mais vous prenez avant les années 90, et après 2005, il n'y a rien en fait. Il y a très peu de Serie A, il y a beaucoup de Serie B.
Mais c'est tellement de grands noms pour nous Français,
oui,
qui sont passés là-bas,
Sensini,
à Turin.
C'est surtout pour une génération. Vous prenez des fans de foot de 20 ans aujourd'hui, Parme, ça ne leur parle pas. Et vous prenez des personnes de 60 ans qui ont grandi avec le calcio, avec le football italien, ça ne leur parle pas forcément. Par contre, tous ceux de notre génération, ça leur parle.
C'est club vintage, effectivement.
Et je pense, pour terminer, Alessio, que contrairement à la Cremonese et ou Venezia, où les bases sont quand même moins fortes, Parme, t'as quand même une base de à la fois de supporters, d'infrastructures, même au niveau des joueurs, qui est beaucoup plus forte maintenant et qui devrait leur permettre, une fois montés en Serie A, de s'inscrire au moins dans la durée.
Voilà la réponse d'Alessio de Johan. J'espère que tu es satisfait. Très bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Le temps de prendre une autre question. Hugo est avec nous. Salut Hugo.
Bonsoir Nico, bonsoir les drôles de dames.
Salut, bon. Salut supporter du LOSC Hugo, question pour Julien.
Exactement,
Hugo.
Bonsoir Julien.
Salut.
Évidemment, c'est
Frérot.
Une question qui va se poser sur le match retour contre Aston Villa. Parce que comme tous les supporters lillois, je suis dans les starting blocks là en ce moment, je suis à fond. Et j'ai trouvé quand même, enfin, j'aimerais avoir ton avis, que le match était étrangement équilibré quand même
au match
aller, et que j'étais quand même assez surpris de voir que limite on le perd contre le cours du jeu sur deux coups de pied arrêtés. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une autre prestation d'Aston Villa au match retour? Parce que je sais pas s'ils nous ont pris de haut un petit peu. J'ai entendu qu'après le match, tu disais « Ah bah oui, en Angleterre, ils étaient quand même assez surpris de la prestation lilloise. » Tout à fait, ouais. Ouais. Et surtout avoir des infos sur les indisponibilités, les blessures ou les suspendus sur le match retour.
Alors avant le match d'hier et la victoire à Arsenal, je t'aurais dit que franchement, après ce que j'ai vu jeudi à Villa Park, plus de possession que Villa, plus de tirs cadrés, plus d'expected goals. C'était vraiment bien malgré c'est une défaite hein, je comprends, je sais que c'est une défaite mais c'était une bonne défaite. Là je t'avoue qu'hier ils ont quand même été impressionnants, j'ai trouvé notamment dans leur gestion du match, des temps faibles, des temps forts, surtout en seconde période, ils ont vraiment été bons et même sans Douglas Luiz, c'était vraiment intéressant. Donc ça va être encore une fois très ouvert, je le répète à chaque fois, mais ça va être très ouvert aussi parce qu'il faut que vous alliez, il faut que vous attaquiez. Mais sincèrement, ils ont beaucoup souffert contre votre jeu vers l'avant. Ils ont fait des erreurs aussi et qui ont permis au Lost d'avoir quelques occasions. Et après, Martinez fait un match de fou. Hein. Il a encore fait un très bel arrêt hier sur Trossard. Donc faudra voir. Mais sincèrement, je pense que vous avez une chance. Après, il y a 50 000 personnes au stade, il y aura une ambiance de fou. Donc moi j'ai hâte d'y être, j'y serai au match, j'ai vraiment hâte d'y être et je pense que vous avez une carte à jouer. Après, il faudra mieux défendre que jeudi dernier. Tu peux pas prendre des buts comme ça, notamment le premier sur la tête de Watkins, d'une naïveté assez incroyable à ce niveau-là. Ouais, mais voilà, c'est... après, sincèrement, je pense qu'il y a peut-être un coup à faire, c'est sûr.
Voilà Hugo, la réponse de Julien. J'espère qu'elle te va, elle est complète. Tu pourras le croiser au stade peut-être, Julien, parce qu'il fait tous les stades sur les semaines européennes.
Avec plaisir en tout cas, et hâte de voir à Lille. Et puis franchement, je sais pas s'il y a eu aussi des réactions concernant le but de Gudmundsson, mais je suis désolé, on peut pas jouer au foot comme ça, avec un hors-jeu au millimètre comme ça. Non, c'est bon, faut arrêter à un moment donné.
Bonne soirée Hugo, bon match jeudi surtout, on sera là sur RMC également. Voilà, terminé pour ce lundi soir. La France veut savoir, Polo, comment Polo Breitner fête son anniversaire. Est-ce qu'il estime que c'est une fête, je sais pas, artificielle, non.
Commerciale,
américaine.
Une fête d'échecs.
Non, mais sortez pas des poncifs systématiquement, les amis. Je m'en fiche, en fait. Je ne le fête pas, je n'ai jamais fêté mon anniversaire.
Jamais fêté. Vraiment. Bon, voilà.
Jamais vraiment, non.
Bon,
on te le souhaite encore une fois quand même.
Bon anniversaire, voilà, quand même, mon cher Polo.